Et nous allons entendre dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 24 à 35. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ses barques et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe produis-tu donc toi, pour que nous voyions et que nous croyions. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Au chapitre 15 de l'Exode, Moïse et les fils d'Israël chantent. Et Myriam prend le tambourin. Et les femmes dansent parce que Dieu les a fait sortir d'Égypte et les a sauvés. Et puis, dès le chapitre 16, ils se plaignent et se mettent à penser avec émotion à leur bien-être passé en Égypte. Ma première réaction, c'est de me dire combien ils sont inconstants, incohérents dans leur désir et stupides de regretter l'esclavage. Et combien ils perdent vite la foi en Dieu, leur sauveur et leur nourricier. Ils sont sans fidélité, sans persévérance, ils sont ingrats, insatisfait au lieu de remercier Dieu, de se réjouir. J'ai envie de penser qu'ils ont la foi balbutiante de l'Ancien Testament, ignorant que Dieu ne les abandonne pas, ne connaissant pas encore le Seigneur, et qu'ils sont donc très loin de nous. C'est vrai ça? Et si j'essayais de me mettre un peu à leur place? Les pèlerins de Saint-Jacques, au bout d'un mois et demi de randonnée, aspirent à se reposer, à se détendre, à reprendre des forces. Ça fait un mois et demi que les Israélites sont sortis d'Égypte. Un mois et demi, sans doute, à marcher, à fuir, à errer. Ils connaissent la soif. Puis ils boivent l'eau de Mara, purifiée, et font alors une pause bienvenue près de l'eau et des palmiers, à Élim. Et voilà qu'ils repartent et arrivent dans un désert. Et c'est le début de notre texte. Donc un soleil caniculaire, la peau collante de sueur et de poussière, des ampoules aux pieds et finalement plus rien à manger. En fait, je peux comprendre leur réaction. Je n'aimerais pas ressentir la faim, la vraie faim, qui prend toute la place dans les pensées jusqu'à ce qu'il devienne impossible de penser et qui nous affaiblit. Il y a des gens qui sont de mauvaise humeur juste parce qu'ils ont faim. En fin de matinée, mon grand-père, qui est assez maigre, grignotait du saucisson pour tenir jusqu'au déjeuner. Ses collaborateurs avaient remarqué que ce n'était pas un bon moment pour le solliciter. Donc nous sommes bénis de ne pas avoir faim, de ne peut-être même pas avoir connu la faim. Et nous pouvons penser au SDF qui mendie en écrivant sur un panneau en carton « J'ai faim ». Je comprends donc la détresse du peuple au milieu du désert. Et même sans avoir faim, je réagis parfois comme eux. C'est tellement humain. Par exemple, je fais un achat. Ce n'est pas un achat compulsif. Je réfléchis bien à mes besoins. Je compare les caractéristiques de différents produits, les prix de plusieurs magasins. Et finalement, j'achète ce dont je rêvais. Et puis, le lendemain, j'ai une autre idée, une envie nouvelle, et je convoite l'achat d'un nouveau produit. Alors, vous pouvez l'adapter au produit qui vous fait envie, un vêtement, un livre, un film, un voyage, un produit high-tech, une voiture, des fleurs. Nous avons, et malgré cela, nous désirons encore plus. Mais il y a d'autres situations où j'obtiens ce que je voulais absolument et je suis légèrement déçu, car je ne me sens pas encore heureux et comblé et je me plains encore, comme les Israélites se plaignent alors qu'ils sont libérés de l'esclavage. Il m'est arrivé de pouvoir choisir le métier que je veux faire, de candidater pour l'emploi qui paraît presque parfait pour moi. Et puis, après peut-être quelques mésaventures, quelques échecs, de finalement l'obtenir. Alors, tout était merveilleux, j'avais trouvé ce que j'allais faire toute ma vie. C'était un soulagement, un confort d'avoir assuré ma vie professionnelle et mon autonomie financière. Et puis, au bout d'un an ou deux, j'ai déchanté un petit peu, je me suis lassé, j'ai critiqué, et c'était devenu un travail ordinaire. Finalement, et je me surprenais à rêver d'autres choses, à envisager un changement. Et parfois même dans les relations aussi, malheureusement, nous aimons une personne, pensons avoir trouvé la personne merveilleuse, ou alors c'est un amour impossible. Alors si l'amour est impossible, ça paraît être une tragédie, un malheur insupportable. Et si l'amour est possible, si peut-être même nous épousons l'amour de notre vie, eh bien, après cela, la vie n'est pas toujours toute rose pour autant. Et il n'est pas si facile au quotidien d'aviver la braise et la flamme de cet amour. Et de même, le peuple esclave a été libéré. Il s'est passé cet événement extraordinaire, il a crié vers Dieu et Dieu l'a entendu, l'a fait sortir d'Égypte avec de grands signes et prodiges. Et puis, maintenant, il murmure, il marmonne, il maugré, il grommelle, il grogne, il grinche. Au début, aussi de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus a donné le pain en abondance pour 5000 hommes. Puis il a marché sur la mer et il s'est déplacé jusqu'à l'autre rive. Apparemment sans barque, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas comment il est arrivé de l'autre côté. Et pourtant, les gens demandent encore quel signe il fait. Il pose cette condition pour voir et croire. En fait, les signes sont là, et ils ne les ont pas vus. Il n'a pas vu ce pain donné en abondance. Dieu leur a déjà tout donné, mais il murmure et réclame encore des signes. Et nous avons la même incohérence. Moi aussi, finalement, je suis stupide, ingrat de me plaindre. Nous avons prié Dieu et Dieu a répondu et nous a exaucés. Mais est-ce que nous pensons à nous souvenir de tous ces dons et à le louer, à lui dire merci? Est-ce que nous vivons dans l'action de grâce en êtres humains sauvés né de nouveau, transformé, converti. Alors, revenez à Dieu, parce que lui, il ne nous déçoit jamais. Vous êtes croyant, alors demandez à Dieu d'être votre pain. Il y a une raison pour laquelle vous croyez. Alors, allez chercher cette raison. Souvenez-vous, vous êtes sorti d'Égypte. Il vous a libéré. Il s'est passé cet éblouissement, cette rencontre avec Dieu. Partez de là, partez du don passé de Dieu pour espérer le don futur de Dieu. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le peuple au désert regrettait l'Égypte. Et voilà que la foule devant Jésus regrette le désert. Et nous, peut-être, nous regrettons Jésus quand il était de son vivant sur la terre, concrètement en Israël. Toujours dans l'envie d'autre chose, nous idéalisons un passé que nous n'avons pas connu. La foule dit à Jésus, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Il leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Ils ne sont pas heureux, mais Jésus corrige leur représentation de la réalité et il les reprend sur 4 points. Premièrement, celui qui donne le pain n'est pas Moïse, mais notre Père. Deuxièmement, ceux qui reçoivent le pain ne sont plus les pères, nos pères, mais nous-mêmes. Troisièmement, le pain n'a pas été donné au passé, mais il est donné au présent. Et enfin, quatrièmement, ce n'est pas un pain simplement physique, mais c'est le vrai pain du ciel. C'est un autre pain, un pain spirituel. Ce n'est pas que dans le passé que Dieu prend soin de nous. Le passé n'est plus ni l'abondance de l'Égypte, ni la manne du désert, ni la présence physique de Jésus. Mais Dieu veille encore. Il ne redonne pas l'Égypte, mais toute la terre, qui ruisselle de lait et de miel. Pas la manne du désert, mais le pain descendu du ciel, celui qui vient sur les nuées, la cité sainte qui descend du ciel, le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu donne et donnera encore. Le Dieu qui a tant donné par le passé donnera encore sans mesure à l'avenir. C'est notre espérance. Une foi qui s'appuie sur une histoire avec Dieu, sur les faits par lesquels il a prouvé son amour pour nous. Connaître Dieu et ses actes passés fondent notre foi. Il faut s'en souvenir, mais Dieu est au présent. Demain sera nouveau et demain sera encore plus beau qu'hier. Nous pouvons tout voir en noir ou bien attendre de Dieu d'être sauvés. Et notre espérance est sûre, car malgré nos incohérences et nos oublis, Dieu reste fidèle. Malgré notre grognement qui tient lieu de prière, Dieu répond. Il voit notre besoin, notre malheur, notre déception, notre faim persistante. Il ne nous fait pas de reproches. Au contraire, il fait des miracles. Il exauce sans juger. Il pourvoit à nos besoins. Il donne ce que nous demandons. Il donne infiniment plus. Il donne le vrai pain du ciel. Il donne la vie à l'univers. il donne Jésus. Avec lui, nous n'aurons plus jamais faim ou soif. Nous n'aurons plus ce creux qui nous ronge le ventre et ces grognements d'ours affamés. Nous n'aurons plus ce bout de carton « j'ai faim » qui résume notre misère. Notre Dieu nous donne un pain inconnu, inattendu. La manne, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Israélites posent la question et nous ne sommes pas sûrs de savoir ce que c'était. Mais la manne, c'est quoi? En hébreu, manne est le pronom interrogatif. Quoi? Le nom du pain est une question. Et Dieu nourrit son peuple de questions, d'étonnements, de choses nouvelles, inédites et inouïes. Les fils d'Israël ne savaient pas ce que c'était. La manne, dit Moïse, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Jésus clarifie encore et affirme, « Moi, je suis le pain de la vie. » Il est ce pain inconnu, ce pain donné à l'affamé, ce pain qui fait vivre et qui ouvre un avenir. Il est ce pain de grâce, donné gratuitement à celui qui espère et croit. Et cette foi, c'est l'œuvre de Dieu. La gloire du Seigneur apparaît dans la nuée. C'est dans les nuages de notre vie que Dieu se fait voir dans sa gloire. Alors levons les yeux. Nous vivons et nous croyons parce que nous avons vu sa gloire. Sa gloire étonnante, nouvelle, inconnue, comme la manne, comme le mystère de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Viens, Seigneur Jésus, descends du ciel, donne vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Amen.